RCF. Bonjour Anne Toulouse.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en studio ce matin pour évoquer l'élection présidentielle hors norme qui se joue outre-Atlantique avec bon nombre de rebondissements sur le ring de boxe où tous les coups sont permis. À ma gauche, Joe Biden, 81 ans. À ma droite, Donald Trump, 77 ans. Dernier rebondissement en date, Donald Trump est lancé dans une course contre la montre contre une décision qui pourrait le rendre inéligible. Un procureur demande la fin de son immunité. Se pourrait-il que Donald Trump soit absent de la prochaine élection présidentielle ?
Non, je ne pense pas. Je pense d'abord qu'il va passer le cap des primaires aisément, même s'il y a face à lui une rivale qui, en fait, dans l'élection générale, battrait beaucoup plus largement Joe Biden, enfin d'après les sondages, hein, parce que ce ne sont que des sondages, c'est pas l'élection, il s'agit de Nikki Haley. Mais il n'empêche que le système des primaires étant une sorte de prime à celui qui a choisi le parti, et manifestement, contre son propre intérêt, le Parti républicain a choisi Donald Trump, donc... Il est le candidat putatif du Parti républicain. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce qu'il va y avoir une décision de justice ? En fait, la seule qui le rendrait vraiment inéligible serait une décision de la Cour suprême qu'on attend. On a vu la présentation du dossier puisqu'il y avait deux États, le Maine et le Colorado, qui veulent le retirer en quelque sorte des candidats, des listes électorales. Ce qui n'empêcherait d'ailleurs, je pense pas, les gens de voter pour lui en write-in. Vous savez, il y a une ligne.
Oui, il faut expliquer un petit peu comment fonctionnent les élections américaines.
Oui, alors
c'est un
les
peu
élections
complexe.
Américaines, vous avez des tas de candidats.
Voilà.
Et puis, vous avez une ligne où on peut écrire le nom du candidat. Alors, généralement, ce qu'on trouve, c'est Jésus-Christ, Mickey Mouse ou moi-même, pour quand on ne veut pas voter pour les candidats proposés. Je ne sais d'ailleurs pas si ce serait valable d'écrire le nom d'un candidat qui a été déclaré inéligible par la Cour suprême. En tout cas, je ne pense pas qu'elle le fasse parce que le dossier est quand même assez faible et on a vu lors du développement des arguments que les arguments tournaient autour de c'est aux électeurs et non pas à tel ou tel État de décider qui doit se présenter.
Oui, parce qu'il y a un risque de politisation de la justice.
Ah bah, elle est déjà politisée dans les grandes largeurs aux États-Unis comme un peu partout. Mais je ne pense pas que la Cour suprême entre dans ce qui serait véritablement une boîte de Pandore et qui ne suit pas tout à fait la Constitution américaine. Il faut dire que les pères fondateurs n'ont pas prévu ce qui se passe actuellement. Heureusement pour eux. Cela dit, c'était une époque où tout n'était pas calme non plus.
Oui.
Donc, oui, la grande probabilité, c'est que nous arrivions aux élections avec deux candidats dont les deux tiers de l'électorat américain ne veut pas.
Oui,
c'est quand
Biden
même extraordinaire.
Et Donald
hein.
Trump n'ont pas une cote de popularité si importante que ça lors des sondages et des enquêtes d'opinion.
Bah, d'une façon extraordinaire, ils ont la même, c'est autour de 40%. Ce qui veut dire que ça ne fait pas une majorité, ni d'un côté ni de l'autre. Les sondages donnent un très léger avantage à Donald Trump dans l'élection générale. Moi, je ne crois pas trop à cette fiabilité parce que c'est différent de dire « Est-ce que vous êtes content du président ?» Non, les gens ne sont pas contents, comme un peu partout, mais avec quelques bonnes raisons.
Et c'est différent de dire « Je vais voter pour lui ».
Et quand vous vous trouvez devant votre bulletin et que vous vous dites « Est-ce que je vais encore avoir 4 ans de ce qu'on a connu ces dernières années ?» Je pense que les gens vont hésiter. Mais d'un autre côté, vous avez un président, je parle de Joe Biden, qui aura 82 ans au moment de l'élection, ce qui veut dire qu'il en aurait 86 au moment de terminer son mandat. Le terminerait-il ou laisserait-il la place à Kamala Harris, sa vice-présidente, qui est encore plus impopulaire que lui ? Vous voyez, tout ça entre... Et il y a aussi ce sentiment, si vous voulez, un peu de trahison de l'électorat démocrate, puisqu'il avait dit qu'il ne se présenterait que pour un mandat.
Il se présente pour un deuxième.
Il se présente pour un deuxième et il n'a pas assuré sa succession parce que... Maintenant, mettre un candidat démocrate en lice, ça n'a pas de sens. Il n'aura pas le temps de faire campagne. Et en même temps, il aurait pu y penser un petit peu avant. Mais vous savez, j'ai une citation que j'aime beaucoup de John McCain, l'ancien sénateur de l'Arizona, qui était républicain. Il disait le seul remède contre les ambitions présidentielles, c'est le liquide à embaumer les cadavres.
La campagne présidentielle américaine s'est d'ailleurs focalisée notamment sur un sujet, les aides accordées à l'Ukraine. Plutôt unis derrière Joe Biden, les démocrates sont dans l'immense majorité pour, les républicains, eux, sont divisés. Est-ce que c'est une façon, ce sujet-là, des aides accordées à l'Ukraine pour les républicains, d'engager aussi un bras de fer de plus avec l'administration démocrate ?
Oui, parce qu'il faut voir qu'ils le mettent en balance avec la sécurisation de la frontière sud des États-Unis, qui se porte assez mal, puisqu'on a vu même l'impeachment du secrétaire, c'est-à-dire du ministre chargé de la sécurité des frontières par une courte majorité républicaine. Bon, ça ne se concrétisera pas, c'est plutôt de la gesticulation. Mais il est certain qu'il y a une grosse préoccupation dans l'opinion publique à propos de l'immigration. Et on voit que cette frontière sud passe au moins, en décembre, il y avait 300 000 entrées illégales. Mais c'est celles qu'on peut répertorier, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Donc les gens disent, une partie de l'opinion dit, mais pourquoi ne pas sécuriser d'abord notre frontière avant de sécuriser les frontières européennes? Et là, le Parti républicain a une audience à la marge, mais c'est cette marge qui fait les élections.
Autre sujet de tension entre Donald Trump et Joe Biden, ce sont les déclarations de Trump au sujet de l'OTAN. Alors pour refaire un peu le film, l'ex-président américain a annoncé qu'en cas d'élection, il ne défendrait pas automatiquement les pays membres de l'OTAN si ces derniers étaient attaqués par la Russie. Stupide, honteux, dangereux, a répondu Biden. On est maintenant habitué aux provocations de Trump. Pourquoi Joe Biden continue-t-il d'y répondre ?
Oui, ça c'est un grand mystère parce qu'ils se font de la publicité mutuellement. Vous savez, c'est la méthode, c'est quelque chose que je décris dans mon livre, c'est qu'en fait tout le monde se trumpise, c'est-à-dire que l'excès appelle l'excès et qu'au lieu, si vous voulez, de garder une attitude pondéré, centriste,
nuancé,
tout le monde se tire vers les extrêmes. Alors il faut dire que là, Donald Trump a fait très fort. Il a dit non seulement je ne défendrai pas, mais encore j'encouragerai, sous-entendu la Russie, à les attaquer. C'est un trumpisme, c'est une exagération à l'état pur, parce qu'il faut bien dire que là, dans ce cas-là, la bonne nouvelle, c'est quand même que Donald Trump a été président pendant 4 ans et qu'il n'a rien fait contre l'OTAN, si ce n'est de faire payer les cotisations en retard, ce qui lui a valu une certaine popularité dans l'opinion publique américaine. Mais il ne s'est pas retiré de l'OTAN.
C'est ce que j'allais vous dire. Donald Trump, il a été président pendant 4 ans. Le monde ne s'est pas effondré. Il a serré la main de Kim Jong-un. Il a discuté avec tout le monde. Parfois, on peut se dire, est-ce qu'il est vraiment le diable qu'on décrit ?
Non, si vous voulez, verbalement, il part dans des excès regrettables. Et puis, il faut pas oublier qu'il a fait quand même un grand mal aux institutions américaines en contestant le résultat de l'élection de 2020. Ça, c'est vraiment un coup porté à la fois à sa réputation et au statut des institutions américaines. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez à contester une élection, c'est contagieux. D'ailleurs, on a vu la même chose en France. Je cite dans mon livre Jean-Luc Mélenchon disant que Emmanuel Macron est trop mal élu pour gouverner. C'est-à-dire qu'il n'a pas une majorité absolue, donc on l'empêche de gouverner. C'est quand même la contestation du principe même de la majorité. C'est très grave.
Nous sommes avec Anne Toulouse, l'auteur de L'art de tromper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, c'est aux éditions du Rocher. Effectivement, Anne Toulouse, vous parliez de cette trumpisation, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Dans votre livre, vous dites « Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau font de la trumperie comme Monsieur Jourdain faisait de la prose ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était après un séjour en France, au moment de la réforme des retraites. Et puis après, je suis revenue, j'avais une mauvaise pioche parce que je suis revenue au mois de juin, au moment des émeutes de la fin du mois de juin. Et j'ai vu dans la violence du discours politique, notamment dans l'extrême gauche, mais aussi dans l'attitude de l'extrême droite, enfin des extrêmes,
du Rassemblement national.
J'ai vu une façon une sorte d'apologie de la violence, de référence à la Révolution, de référence à des paraphrases de phrases de Robespierre, enfin, etc. Et puis surtout une violence verbale qu'on ne voyait même pas aux États-Unis. Par exemple, à l'Assemblée nationale, j'ai été très, très surprise. Je découvrais, si vous voulez, parce que j'ai dit, tiens, il y a
parce qu'effectivement, vous vivez aux États-Unis une partie de votre temps.
Je suis à moitié américaine, d'origine française, comme vous l'entendez. Et donc, je découvrais au fur et à mesure et j'ai cherché des citations. J'ai vu des attitudes qui m'ont beaucoup choquée, comme par exemple un député LFI qui avait le pied sur un ballon qui représentait la tête du ministre du Travail. Alors évidemment, c'est comme Trump. Trump dit, lorsqu'il y a la violence du 6 janvier, il dit, non, attendez, mais moi je n'ai rien dit, je ne l'aurais pas dit de faire ça. Mais les propos ont été tellement extrêmes qu'ils ont poussé des gens à des attitudes violentes. Et on voit bien la violence dans la rue en France, comme elle se déchaîne à au moindre désaccord avec le pouvoir politique. Aux États-Unis un peu moins, quoique, et il y a une sorte de banalisation à la fois de la violence verbale, de quelque chose qui est pousse au crime et de la violence dans la rue, qui moi m'inquiète beaucoup.
Dans quelle mesure cela impacte-t-il la politique de Joe Biden ? Parce que Joe Biden, quand il a été élu, il était plutôt vu comme plus mesuré. Est-ce que lui aussi, il a pris certains réflexes de Donald Trump ?
Bon, il faut dire qu'il s'est un peu trumpisé avant Trump parce qu'il a quelque chose de particulier. Il a un rapport particulier avec la vérité, c'est qu'il ment tout le temps.
Comment mais sur ça des... Joe Biden ment tout le temps.
Oui, mais sur des petites choses qui n'ont aucun intérêt. Vous savez, le Washington Post a une rubrique qui s'appelle les Pinocchio. Alors, Pinocchio, c'est le personnage dont le nez s'allonge à chaque fois qu'il dit un mensonge. Et Joe Biden a eu le titre de Pinocchio d'honneur, c'est-à-dire qu'ils ment tellement qu'on ne peut plus compter. Mais le titre avait été créé pour Donald Trump. En fait, ils sont les deux détenteurs du titre. Alors, il ment sur des choses. On cherche pourquoi. Par exemple, quand il dit que sa maison a été détruite par le feu. C'est pas vrai. Il l'a répété plusieurs fois. En fait, il y a eu un départ d'incendie dans la cuisine. Les pompiers sont venus. Alors, à chaque version de l'histoire, il y a un pompier qu'on a sorti à moitié mort. Sa femme a failli périr dans l'incendie.
Il fait du storytelling, comme on dit, de tout ça.
Voilà. Ils sont, alors, quelqu'un a expliqué ça en disant, c'est un politicien à l'ancienne au moment où on contrôlait pas ce qu'on disait. Vous pouviez raconter au fin fond de l'Idaho. Par exemple, il raconte fréquemment, qu'il a été arrêté en Afrique du Sud en essayant de rencontrer, Nelson Mandela. C'était dans les années 70. Il était avec toute une délégation parlementaire. Tout le monde dit que ça n'est pas vrai. Il y a eu un petit... Au départ, il a été interpellé par la police parce qu'il voulait sortir de l'aéroport avec les Noirs, alors qu'il y avait une sortie pour les Noirs et pour les Blancs, ce qui en dit long sur l'Afrique du Sud. Mais ça s'arrête là, l'histoire. Et il y a plein de petites histoires comme ça où Joe Biden répète en disant « c'est la vérité du bon Dieu, c'est la vérité de Biden ». Et donc, voilà, ça, c'est un élément de trumpisation. L'autre, c'est quand même qu'il s'appuie sur les extrêmes, qu'il a un discours extrêmement radical, alors qu'il a été élu avec l'idée que c'était un vieux politicien centriste, ça allait être un peu pépère, un peu le grand-père de la nation. Et là, il est bien obligé de s'appuyer sur les extrêmes, parce que c'est les extrêmes qui font bouger une élection.
Et certains aussi pointent du doigt sa sénilité. Quand il ment récemment, il a pris Emmanuel Macron pour François Mitterrand, il a confondu les deux noms. Ce que vous nous dites ce matin, est-ce que c'est non pas qu'il est sénile, mais qu'en fait, dans toute sa vie politique, il a toujours un peu menti et pris des libertés sur la vérité.
J'ai commencé à voir Joe Biden, je sais pas, il y a 30 ans, quand il a pris la présidence de la Commission des Affaires étrangères, et racontait toujours des histoires un peu invraisemblables. Quand il posait une question lors des auditions, on avait 10 minutes pour aller faire un tour, on revenait, il n'avait toujours pas fini, et ni lui, ni son interlocuteur ne se souvenaient de ce qu'il voulait dire. Non, Joe Biden, il y a d'abord un problème, il est très verbeux. Il s'écoute parler, mais je trouve que ces dérapages de langage, je ne sais pas s'il est... On voit bien qu'il est désorienté. Tout le monde est parti, par exemple, sur le fait qu'il a confondu le président égyptien avec le président... Enfin, il a dit qu'il était mexicain. Mais ce qui me paraît plus grave, c'est si on va au bout de la phrase, il dit... parce qu'il raconte qu'il a fait pression sur lui pour faire entrer les réfugiés de Gaza en Égypte. Vous imaginez le président égyptien, son problème, c'est pas d'avoir été traité de Mexicain, c'est qu'on aille raconter quelque chose qui le met en grande difficulté vis-à-vis de son opinion publique. Comment, pour accueillir les réfugiés palestiniens, ce sont les États-Unis qui donnent les ordres. Et c'est ça qui est grave dans le discours de Joe Biden. C'est pas qu'il confonde Mitterrand avec Emmanuel Macron, quoique ça rappelle un peu quand même, quand les gens vieillissent, ils se souviennent mieux du passé que du présent. Mais enfin bon, ça c'est anecdotique. Moi je ne suis pas médecin, je ne vais pas diagnostiquer Joe Biden, mais je trouve que quelque part, il s'éloigne souvent du discours diplomatique.
Merci beaucoup. Anne Toulouse rappelle que vous êtes l'auteur de L'art de tromper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été l'invité de la matinale.
Merci à vous de m'avoir invité.